Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette petite heure sur laquelle nous allons discuter sur le web 2.0, Wikileaks, Wikipédia, et quelles influences ils peuvent avoir ou ils ont déjà eu sur l'histoire, l'histoire passée, l'histoire présente, l'histoire future. Donc nous sommes à un moment où il y a une explosion du web participatif et on se pose la question, qu'est-ce que devient l'identité de l'information, que devient l'information qui est diffusée sur la toile et qui est stockée dans la toile. Quelles histoires, quels repères et quelles mémoires est-ce que nous allons laisser aux générations qui arrivent derrière nous et qu'est-ce que nous voyons, nous, maintenant, de l'histoire passée. Les révélations de Wikileaks, est-ce qu'elles peuvent ou non changer l'histoire, ou au moins notre vision de l'histoire? Est-ce que Wikipédia nous offre réellement une vision de la vérité? On a toujours tendance à dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'elle n'est pas écrite par tout le monde? Voilà, c'est un petit peu les sujets que nous allons essayer d'aborder. Je ne dis pas que nous allons tout voir et tout parcourir aujourd'hui. Alors, nous avons une heure. Pour parler de cela, nous avons Lionel Davou, qui est de formation scientifique et qui s'est orienté assez vite vers l'écriture. Tout d'abord traducteur, il s'est lancé dans les nouvelles, avec plusieurs nominations à des prix et le prix Imaginal en 2009. Il est adepte de la technique de pointe, il utilise des formats variés pour ses publications et son premier roman, La volonté du dragon, est paru en 2010. Avec nous, nous avons aussi Lucius Shepard, qui est un auteur américain. Très jeune, il s'est mis à voyager. Il a commencé l'écriture en même temps que le journalisme au cours des années 80, en partant couvrir le conflit du Salvador. Il ne s'agit pas simplement donc d'un auteur assis sagement derrière son clavier. C'est quelqu'un qui voyage, qui rencontre les gens. Et bien confiance, peu de ses ouvrages a été traduit ces dernières années. Il continue d'écrire actuellement. Et Ian MacDonald, qui vit à l'heure actuelle en Irlande du Nord, qui a été couronné par de nombreux prix, y compris en France, le prix Imaginal 2009. Alors, deux prix Imaginal 2009 ici, c'est bien. Parmi les thèmes de ses œuvres, nous trouvons les technologies avancées et les particularismes ethniques, en mettant l'accent sur les conflits que peuvent générer les uns et les autres. Donc, messieurs, merci d'être venus. Bonjour. Alors, Wikileaks, Wikipédia, le web, je dirais que si on veut prendre la chose brutalement, d'une manière générale, il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours eu des pamphlets, il y a toujours eu des écrits interdits, il y a des choses qui passaient sous le manteau, il y a toujours eu du révisionnisme. Il y a toujours eu une mémoire collective, mais elle était fragmentée, elle était incomplète, elle s'effaçait. Avec les nouveaux outils, tout le monde, maintenant, peut avoir accès non seulement à l'information, mais à la création de l'information. Alors, j'ai posé une question brutale. D'après vous, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est simplement une évolution, Ian MacDonald?
Yeah, in a sense, it's a good thing that it's fragmented. Information may have been fragmented in the past, but it's a good thing it's fragmented now because it means there is no one place where the government can go to shut it all down and take it all away again. Which was one of the exciting things about WikiLeaks was that as soon as leaks were made, different mirror sites and hosting sites popped up all around the world. I think Iceland was a particular big hosting site for WikiLeaks information because, first of all, Icelanders aren't afraid of no fucking Westerners because they're tough in Iceland, and also they have enough free energy to basically keep any number of servers with any amount of information running on it. So, in a sense, I think it's important and valuable that that information is broken up and distributed around the network, because the way we understand information these days is completely different from the way we used to understand information, where we used to think of it in terms of just one direct line from a source, from a journalist, from a publisher, from a filmmaker, from one piece of information in a direct line to us through publication, print, distribution, media. It kind of fanned out like a tree. But these days, the way that information is stored is much more complex than that. As anyone who has ever torrented a movie or a piece of music will know, that whenever you torrent a movie, you don't just get it from one source. It's several different sources, all have different bits of that movie, and you're drawing on different streams at any one time. So the way information passes to us is we are a node. This sounds awfully kind of wanky. Actually, it's kind of because we are a node in a network kind of thing. But we are surrounded by an environment of information to which we're linked in a much more complex and much more organic way than just a simple distribution tree from a source to a receiver. And that, I think, is one of the strengths about Web 2.0, if that's what we want to call it.
And you, what do you think of all this?
About this node and the
way information. You were a journalist.
I mean, basically, you have to agree with what Ian says, but I'm not so sure it's any better or worse than being completely deaf, blind, and dumb. I mean, because, I mean, the way they handle WikiLeaks is they just drowned it in misinformation. And, like, you know, it became, you know, one of 3,000 different stories about the same thing. And so, I mean, plus, you know, I mean, I haven't seen any great breakthroughs in, you know, like, social science or anything like that since this information has started coming. So I don't think we've gotten any smarter as a result of it. You know, like, I mean, we're in a pickle. Economically, we're about to tube. We're, you know, I mean, things are going to crash. It doesn't seem to have helped the general tone of the world, you know, to have had this, you know, information revolution.
Sur le modèle du web participatif, déjà, je pense qu'il faudrait rappeler que déjà Wikipédia et Wikileaks, ce sont deux choses complètement différentes, que même s'ils ont en commun la racine wiki, qui est, si je ne m'abuse, du tahitien, j'ai peut-être dire une bêtise, mais ça signifie participer, et que c'est sur cette base que Wikipédia a donné son nom, puisque c'est effectivement une encyclopédie collaborative que tout le monde peut éditer. Wikileaks a repris la racine wiki, mais ce sont deux organismes complètement différents. Et Wikileaks, à la base, était fondé sur un modèle participatif qui était très proche de Wikipédia, c'est-à-dire n'importe qui pouvait soumettre une contribution, une fuite, qui était ensuite éditée, révisée et qui était passée et qui était publiée. Ce modèle n'existe plus depuis un certain nombre d'années maintenant. Le nom a été conservé, mais les fondateurs et la direction de Wikileaks maintenant publie les transmissions qu'ils récupèrent, interceptent les fuites qu'ils récupèrent, selon un modèle qui n'est pas du tout participatif et qui se rapproche à nouveau là d'une structure pyramidale de l'information. Il récupère ces informations-là et les publie ensuite sans discrimination. Donc c'est deux choses assez différentes. Sur le rapport à l'information et le côté révolution-évolution, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, le côté où chaque personne, en un sens, et ça a été toute la culture dite du hacker. Alors le hacker, on a parfois l'image d'Épinal qu'on a, c'est le vilain piratin qui va aller casser des serveurs. L'esprit hacker, c'est pas ça à la base. L'esprit hacker, c'est la personne qui va avant tout vouloir voir ce qu'il y a sous le capot du système d'information qu'il utilise et vouloir regarder comment les pièces fonctionnent et se l'approprier. Je pense que cet esprit est fondamental à la création d'Internet et à son évolution. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus les États essayer de régimenter, de structurer. On a cette merveilleuse loi complètement inepte qui s'appelle Hadopi en France. Sur le côté, chaque personne fait partie du reste, est un nœud d'information. Je pense que c'est un aspect très important et qui est illustré dans Wikipédia et Wikileaks à ses débuts, c'est la possibilité de s'approprier l'outil et de devenir acteur et créateur de contenu. Après, ça entraîne un autre problème, qui est le problème du rapport signal-bruit, où on a énormément de choses, effectivement, justes qui sont données. Sur la pertinence de Wikipédia, il y a une étude de Nature qui a été publiée il y a, je crois, 4 ou 5 ans, et qui prouve que, en tout cas dans le domaine de la physique fondamentale et de la mécanique quantique, Wikipédia est aussi juste et aussi, c'est une source d'information aussi bonne que l'encyclopédia britannica. Les erreurs sont pas au même endroit, mais l'Encyclopédia Britannica fait grosso modo, en tout cas dans ce domaine-là, pas plus d'erreurs que Wikipédia. Donc c'est quand même une source intéressante. Mais ça pose le problème de tout ce web collaboratif. Il y a des gens qui sont des sources d'autorité qui vont donc faire des articles très intéressants et plein de fonds sur Wikipédia. Il va y avoir aussi des problèmes de defacing de pages, de guerre de l'information, où il va y avoir des réécritures, il va y avoir des suppressions, des articles qui vont être orientés. C'est le problème d'un modèle participatif où il y a des gens qui parfois ont des projets ultérieurs et en donnant leurs informations. Et d'ailleurs, Wikipédia s'est rendu compte qu'il y avait certaines pages qu'il fallait protéger contre l'édition. Donc on voit le modèle évoluer aussi.
Bien, merci, parce que vous venez en gros de résumer ce dont je voulais parler pendant 7 heures. Donc en gros, c'est formidable. So, on peut partir.
Actually, you said jump in, so I'm jumping in. Picking up about what you say about the participatory nature of Wikipedia. Yeah, it's great, but it's like a tool that amplifies the particular biases and social levels of the people who contribute to it. For example, it's very hard to find anything particularly deep or interesting about ballet on Wikipedia. But if you want to find stuff about Marvel comics, there are more things about Marvel and DC comics than there are about the Catholic Church. Now, and that I find is a very interesting skew of the people who contribute information so if you actually did like a knowledge map of what Wikipedia looks like, there'd be Catholicism, which is pretty big. Islam, it's really good on Islam, actually, Wikipedia. And then Marvel Comics and DC Comics, so there's massive, massive amount of information. In fact, it's so big, it looks like a religion. There's a massive amount of stuff also about manga and anime, kind of out of all proportion to its actual relative global importance. So I feel in some ways that Wikipedia is, where it's good, it's very good, but it does tend to naturally magnify the actual interests and worldviews of the people who contribute to it.
Non, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est de façon assez amusante, ça montre ce qui intéresse l'espèce humaine aujourd'hui. Si vous allez sur la version anglaise de Wikipédia, il y a trois domaines qui sont extrêmement fournis et développés, comme le disait Ariane, mais les trois domaines les mieux renseignés, qui, je trouve, c'est extrêmement révélateur sur les intérêts de l'espèce humaine, c'est 1. La mécanique quantique et la physique des particules. 2. Les armes à feu. 3. Les perversions sexuelles. Donc voilà ce qui intéresse l'espèce humaine aujourd'hui.
Et pas seulement DC Comics. Et pas seulement DC Comics. Non,
si, aussi bien sûr, mais il y a des pages et des pages absolument phénoménales sur la mécanique quantique. Il y a des pages et des pages sur des perversions, que c'est très très surprenant. Et chaque arme à feu a sa page, avec, vous avez tout un tas de trucs, les caractéristiques techniques, etc. Enfin voilà, voilà. Qu'est-ce qui intéresse l'espèce humaine aujourd'hui, c'est ça.
Voilà, alors justement, ça nous amène à peut-être parler de la déviation, c'est-à-dire de la déviation non pas sexuelle, mais de l'outil lui-même qui, puisqu'il est offert à tout le monde, puisque tout le monde peut participer, effectivement a un biais, en fait, un biais qui peut être contrôlé par des lobbies, par une certaine censure, finalement. On a vu des pages de Wikipédia disparaître ou être menacées de disparaître, comme la Noosphère, par exemple, simplement par des lobbies qui s'attaquaient à ce genre de choses.
C'est très compliqué. Wikipédia, récemment, ça commence à faire quelques années maintenant, pour essayer de s'assurer que le savoir était le plus objectif possible, on a vu cette espèce de manie de la source arriver sur Wikipédia, c'est-à-dire vous avez un article, il y a une phrase qui est dite, et de temps en temps vous avez des phrases qui sont soulignées, source requise. Il y a cette espèce d'idée derrière, parfois sur Wikipédia, que pour qu'un fait soit avéré, il faut qu'il y ait une source qui va derrière. Et à la rigueur, mais ça ne fait que reporter le problème. C'est-à-dire, peu importe d'où vient la source. Si un jour, il y a un type qui l'a dit, on peut le citer et à la rigueur, ça va. Et c'est à la fois, parce que on comprend le besoin d'essayer de contrôler cette espèce de foisonnement où on a des gens qui orientent certains articles parce qu'ils ont ils ont une vision ultérieure, ils ont des projets cachés, ils cherchent à faire dire certaines choses à une source qui passe pour objective ? Et la réponse, ça a été d'essayer de chercher des sources. Mais le problème, c'est que ça déporte d'une part le problème sur la source, et que d'autre part, il y a un certain nombre de sujets qui sont de toute façon sujets à subjectivité. Toute étude, en tout cas au moins dans les sciences humaines, toute opinion, tout traitement d'un sujet de sciences humaines est sujet à une certaine forme de subjectivité. C'est ce que vous, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est pas forcément une bonne chose, c'est juste comme ça. Donc ça pose tout un tas de questions intéressantes qui vont encore au-delà pour moi de la question du web participatif. C'est quelle est la validité d'une source, dans quel contexte elle s'insère, et c'est finalement tout le problème d'Internet depuis toujours. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, et ça pose toute cette question de, je trouve, une des débats qui pourrait être intéressant à avoir sur l'évolution d'Internet plus tard, c'est comment est-ce que la personne qui se place, comment la personne se place vis-à-vis du contenu, comment elle évolue. On crée le contenu, mais est-ce qu'on ne crée pas aussi sa propre subjectivité? Est-ce qu'on ne crée pas aussi sa propre opinion? Comment est-ce qu'on compose sa vision du monde? Comment est-ce qu'on compose avec différentes visions du monde?
Est-ce que les gens font un effort là-dessus? Oui, effectivement, c'est intéressant. Où est-ce qu'on prend toutes les informations telles qu'elles arrivent? Effectivement.
Just going to say actually that if that Wikipedia's vision of the world seems to be that the world is very much like the mind of a 19-year-old male student with mild Asperger's syndrome. Actually, it seems to be pretty much. I mean, I wonder how many women contribute to Wikipedia as opposed to guys, because it's very, 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 very guy-oriented.
Alors, si on revient sur le sujet initial, qui est l'histoire, quand même, avec tout ça, c'est-à-dire quel impact, comment ces outils revisitent l'histoire et quels sont les impacts. Si je me tourne vers M. Shepard, il y a un certain nombre d'années, vous...
I mean, you know, first of all, I'd like to say that whoever the validity of Wikipedia, whoever writes my Wikipedia page, it's about 75% bollocks, you know, so I mean, you know, right away, I'm not a believer. The impact of What was you saying? The impact of history? Well, I mean, I don't think it's going to have much. I mean, I think it's going to be wiped out by, you know, like, first of all, I don't believe in human history. I think we've got maybe 50 years left. And, like, I'm like the Swedes. A Swedish editor once told me, we don't like science fiction in Sweden. I said, why not? He says, we don't believe in the future. And so, you know, I'm not a real big believer in the future. And if the way things keep going, I think the internet's going to be down in about 10 years. Somebody will come up with a quantum computer and blow all the encryption sites, and like, wham, you know. So I'm not really concerned with Wikipedia being a big influence in my life.
Oui, mais actuellement, sur les gens actuellement, il y a une influence de Wikipédia. Et si on remonte, lorsque vous faisiez du journalisme, vous étiez l'information passait par un filtre qui était un filtre professionnel, une filière qui n'est plus là.
The filter does exist with journalism. I mean, with the embedding of journalists in the Gulf War and stuff like that. I mean, the government completely controlled the information coming out of the Gulf War, and except for now, Al Jazeera actually came along and, you know, started giving some sides, some Arabic, the Arabic side of the truth, you know. But like when I was a journalist, I covered the war in El Salvador, and that was a very personal war. It was like you were just down on the ground with the FMLN and the guerrillas, and and you saw a lot of really bad stuff. And the only filter you had, you know, was your own process, you know. And now you would take, I would bring stories to a writer. I was just a stringer. I would bring stories that Hotting Carter, who used to be with the Carter administration, would sit by a pool at the San Salvador Hilton drinking a coconut drink. And I would come and bring him raw data on the latest, you know, absurd, you know, massacre. And then he would write a human interest piece on it. So that was my filter, you know, but what I saw was pretty raw.
Oui, mais aujourd'hui, n'importe qui, si moi j'ai envie d'écrire sur ce qui se passe en Syrie ou ce qui s'est passé en Libye, je peux le faire, et sans contrôle, je dirais, sans filtre. Est-ce que...
Really? I mean, can you? How would you go about that?
Je peux raconter n'importe quoi, oui.
Well, yeah, but I mean, you have to have a code, some kind of code. If you're, well, I'm an old school guy. I mean, if you're a journalist, the idea was to have some sort of connection with the truth, you know, and some kind of, you know, code about what you were saying, whether it be effective or whether it would hurt more people than harm than help. And like, if you just go into journalism with the idea that I'm just going to say whatever the fuck I want, you know, I mean, it's not going to work out. For anybody.
C'est justement le problème, c'est que sur Wikipédia, par exemple, n'importe qui peut.
It's certainly an issue with journalists these days. I mean, you know, with Murdoch and everybody, you know, running things. But like, but I mean, the issue with Wikipedia, I don't think. I mean, do you really think people take Wikipedia seriously? I mean, everybody I know just laughs at it. You know, I mean.
Bah, en fait, on a.
I mean. Maybe not on quantum physics. They don't laugh at that. I you know, but just like general knowledge stuff and general information.
Pour le voir un peu, puisque je fais très timidement 12 heures d'enseignement par an, donc c'est vous dire à quel point j'en fais. Je commence à plus vraiment avoir 20 ans et je vois arriver des gens qui ont 20 ans. Et le rapport vis-à-vis d'Internet et le rapport vis-à-vis de l'information est extrêmement différent de celui qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est présente quelque part, elle n'est que très rarement remise en question. Donc je pense que Wikipédia est vraiment pris, et c'est encore plus le cas chez les collégiens et tout, apparemment... pour certains, font des exposés en faisant des copier-coller de Wikipédia en s'imaginant que ça ne va pas se voir. Donc, il y a un rapport à l'information qui est à la fois qui est un peu dangereux parce qu'effectivement, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Internet et ça peut être pris par argent comptant. Donc, je pense qu'on a tous une réflexion à faire et à reconduire sur l'esprit critique aujourd'hui. D'ailleurs, on peut regretter qu'on en prenne de moins en moins le chemin. Après, sur la possibilité pour n'importe qui de dire n'importe quoi, j'ai envie de dire que c'est le risque de la liberté d'expression, de toute façon, et que ça l'a toujours été. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait avoir un média, il fallait pouvoir avoir cette parole, qu'elle soit transmise. Et aujourd'hui, ça coûte quasiment plus rien de dire un truc et de le mettre sur Internet. Cela dit, moi, je suis pas vraiment... je ne suis pas très, très, très inquiet sur cette dimension-là. Je ne pense pas que le problème est là, en fait, parce que je pense que la liberté d'expression, déjà, est un droit fondamental et que, comme un certain nombre de grands principes comme ça que nous tenons pour importants dans notre civilisation, ça entraîne forcément un certain nombre de dérives et de problèmes. Mais surtout, on part du principe qu'à partir du moment où je vais dire un truc sur Internet... je vais être écouté. C'est pas vrai du tout. Quand on met un truc sur Internet, ça revient à écrire un graffiti sur un mur. C'est pas du tout dit qu'il va être lu, c'est pas du tout dit qu'il va intéresser qui que ce soit. Et je pense que tout auteur qui un jour fait son propre site Internet ou sa propre page Facebook, on voit beaucoup de jeunes auteurs qui partent la fleur au fusil, font une page Facebook, font un blog, et découvrent que c'est pas du tout parce que la parole est transmise et se trouve mise out there, qu'elle est là, qu'elle est dehors et qu'elle est disponible, qu'elle va être lue et qu'elle va intéresser quelqu'un. C'est pas parce que l'information est disponible qu'elle va être reçue. Et donc c'est alors après sur un site comme Wikipédia qui est beaucoup plus consulté, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a toute cette espèce de parfois de guerre d'opinion et d'information sur Wikipédia, mais là, j'ai envie de dire qu'on retourne un petit peu à quelque chose qui est aussi vieux que le monde, ça s'appelle la guerre du renseignement. Alors simplement, les médias ont changé et effectivement, toute personne a beaucoup plus le pouvoir de s'exprimer pour le dire. Mais la guerre du renseignement est quelque chose de très ancien. Moi, il y a un truc dans l'histoire de Wikileaks qui m'a toujours stupéfié, c'est Wikileaks n'est considéré une source valide et une source considérée donc dangereuse pour la CIA, les États, les services secrets, parce qu'elle est considérée crédible. Et comment est-ce que cette source-là a été considérée crédible ? Parce qu'un jour, Wikileaks avait détenu des documents et des câbles, et la CIA a levé haut la main en faisant hey, postez pas ça, c'est à nous. Moi, j'aurais été la CIA, j'aurais utilisé. Enfin, je dis pas, peut-être que. Voilà, j'ai l'air très malin là, comme ça, en disant oui, si j'étais la CIA, je saurais su quoi faire. Mais il y a un truc qui est très bête dans la guerre du renseignement, ça s'appelle les écrans de fumée. Moi, il y a un truc, et je trouve qu'il est encore plus intéressant, à la limite, que cette histoire de Wikileaks, d'avoir justement ces gens qui détiennent des documents, à quel point que Julian Assange est pourchassé, c'est. Pourquoi est-ce que ces services secrets et ces États n'essaieraient pas d'enfumer Wikileaks en balançant des quantités de faux câbles et de fausses informations, ce qui à ce moment-là aurait coulé la crédibilité du site et ça aurait été terminé. Donc ça c'est. Et alors je ne sais pas si ça cache quelque chose de plus important, mais ça reflète.
Don't you think they're doing it now? I mean.
Peut-être. Mais pour moi ça reflète tout un truc qui limite encore plus fascinant que le média lui-même, c'est finalement la panique qu'il suscite et à quel point je parlais de ça hier à Révolution 2.0 pendant le printemps arabe. Alors je ne me rappelle plus de quel pays était concerné, je suis navré, mais une amie discutait sur Internet avec une autre amie par MSN en lui demandant justement des nouvelles, comment ça se passait, puisque c'était pendant les événements, en l'occurrence dans ce pays-là. Et la personne répond, bon, ça va, de mon côté, ça craint pas trop. Mais bon, l'État durcit un peu sa poigne, ils ont coupé Internet. Et là, il y a un côté, mais on n'est pas en train de discuter par MSN, là. Ah ouais, si, mais ils ont coupé le web. Donc, ça montre, bon, alors, il y a d'autres États qui connaissent un peu mieux comment ça marche, notamment la Chine, mais ça montre à quel point tout le monde est paumé vis-à-vis de ce truc-là. Et c'est assez intéressant parce que finalement, quelque part, ceux qui contrôlent le mieux ces outils-là, ce sont les hackers d'avant-garde, pour le meilleur ou pour le pire, des gens comme les Anonymous ou même le fameux hacker de 19 ans dans son garage plein de testostérone. Mais il y a une espèce de panique vis-à-vis du média qui, je trouve, est limite encore plus intéressante que le média lui-même.
Mais on pourrait peut-être en parler à ce moment-là un petit peu.
It's the way for an internet-based revolution to succeed, there are two ways of doing it. One is to integrate the internet so deeply into society that any attempt to shut it down will destroy the infrastructure and the economy, so they cannot effectively shut down communication tools. The other way is there are probably other models, but I was at a conference earlier this year about virtual economies, and I've talked about this before, virtual economies in the developing world. And I heard about this, it's a Canadian group of open source engineers who are working in Afghanistan, in Kabul. And they built a thing called FabFi. I've actually got the details on my phone, which is very high tech. I mean, anyway. What FabFi is, it's a homemade Wi-Fi network. Small-scale local Wi-Fi network. This one, the first one they built had 45 nodes in it, in a bit of Kabul, and people built it themselves with local knowledge from local radio engineers and with bits of old military stuff left around, and with stuff they had around the houses, old satellite dishes, bits of basically just general tech at everyone's general level of knowledge and engineering. They've now built five or six FabFi networks across Kabul. They're rolling the idea out to other countries. But what you have with FabFi is you have Wi-Fi networks that cannot be shut down by the government, because these are free, independent Wi-Fi networks. If you have a country that builds enough of these things, local community-based free Wi-Fi networks, even if they shut down 30, 40, 50 of them, the nature of the internet, the information will still go around through other networks, and yet again, you have a communications network for your revolution that cannot be shut down by the government. So the most important thing to do, it's not saying, you know, come with me down to Tahrir Square and we'll throw a few rocks at soldiers on your BlackBerry or on your smartphone or whatever. It's actually building an infrastructure through which you can communicate that cannot be shut down by the government, either because it's free, independent, localized, very broken up, or it's so deeply rooted and deeply centralized it'll wreck the country. I tend to go more for the Fab Five method because I like the kind of idea of people messing around and building something kind of funky from stuff they find in their garages. But I found that a very, very interesting idea. And if, so if you're going to have a revolution, do that first.
Alors, ça nous amène un petit peu à une autre partie du sujet, c'est-à-dire que nous avons, pour l'instant, parlé principalement de la mémoire de ce qui s'est passé et de la mémoire que l'on a écrit, je dirais, donc Wikipédia, Wikileaks, qui ne fait que retransmettre des choses qui existaient, des informations du passé. Maintenant, ce qui se passe, effectivement, c'est une deuxième, alors révolution, évolution, comme on veut l'appeler, qui concerne l'information immédiate. C'est un petit peu comme si le web avait, comme les humains, une mémoire immédiate et une mémoire à long terme. La mémoire à long terme, Wikipédia, Wikileaks, ces choses qui restent, qui s'intègrent dans le web, et une mémoire immédiate que l'on voit au travers de Twitter, de Facebook, des informations qui arrivent et qui circulent et qui disparaissent de nos pages Facebook très rapidement, et qui concerne ce qui se passe actuellement dans le monde. Et tout le monde maintenant peut voir ce qui se passe dans le monde. Il y a deux jours, les indignés ont été expédiés hors de la défense à 7h30, à 9h sur Facebook. Tout le monde pouvait voir les vidéos de la police chargeant les manifestants. Donc toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut le voir comme étant utile, constructif, comme étant une avancée, ce qu'on disait sur la démocratie du monde, ou est-ce que c'est peut-être un peu contre-productif? Et là, je reviens sur la différence un petit peu, j'irais, entre l'immédiateté et la disponibilité de l'information par rapport à l'analyse et au filtre du professionnel qui est capable de vérifier ses sources et de transmettre des informations peut-être plus tempérées.
Bah, je pense qu'il y a évidemment une place pour les deux. Il y a une émission, une ancienne émission de télé qui s'est passée en modèle à l'abonnement sur le net, que je pense tout le monde connaît, qui est Arrêt sur image, qui propose justement toute cette analyse. La possibilité d'avoir l'information en immédiat, pour moi, est absolument fondamentale, encore plus dans un monde qui se dirige de plus en plus vers qui est fondé sur l'information. Encore une fois, ça a toujours trait à la liberté d'expression qui pour moi est absolument fondamentale. Tout est rapport à une question de demande. Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Je pense que les gens veulent, parce qu'on est de plus en plus tous de plus en plus connectés avec nos terminaux, on veut savoir ce qui se passe en temps réel dans le monde, donc il y a une véritable demande de cette information en temps réel. Et il y a aussi une demande pour cette analyse, parce que ce n'est pas parce qu'on voit les choses qu'on a une réaction sanguine, qu'on les comprend. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour nous ici, c'est très difficile de mettre en perspective ces sujets-là, parce que c'est évidemment, on n'en est qu'au début, et on devrait presque avoir un regard d'historien sur des choses dans lesquelles on baigne, et c'est quasiment impossible. Même les historiens eux-mêmes, en parlant du printemps arabe, disent « donnez-nous 10-20 ans, puis on vous dira ce qu'on en a pensé ». Moi, il y a un principe sur lequel je voudrais dire un mot, c'est le principe de neutralité du net, qui est pour moi absolument fondamental et dont on entend un peu parler. Est-ce que ça dit quelque chose? Je vais peut-être pas forcément en parler si tout le monde voit de quoi. Bon, je vois pas trop de mains de si un peu quand même. Ah si, bon. C'est aujourd'hui le principe de neutralité du net est fondamental, hein, parce que comme Ayan le disait, ça participe de l'indépendance du réseau. Le principe de neutralité du net, ça veut tout simplement dire que quand vous vous connectez à Internet, les tuyaux sont stupides. C'est-à-dire que quand vous recevez l'information, elle n'est pas filtrée par une entreprise, un gouvernement, quelqu'un qui vous donnerait un contenu ciblé pour votre bien, bien entendu. C'est-à-dire que ça part du principe que vous, utilisateur, vous avez la possibilité d'accéder à toute cette information sans filtrage. Et ça présuppose que vous êtes des gens intelligents et ça présuppose que vous êtes capable de les recevoir et de faire le tri. C'est-à-dire, ça enlever le principe de neutralité du net qui est en grand débat en ce moment, ça veut dire que, en gros, l'État vous met un contrôle parental et considère que vous êtes trop stupide pour pouvoir faire vous-même le tri de l'information que vous allez recevoir. Et en ce moment, on utilise beaucoup le cheval de Troie de la protection de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur pour instaurer un filtrage finalement, de l'information qui va vous arriver. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave parce que la liberté d'expression et la liberté d'information, surtout, est directement inféodée de façon technique à la neutralité du tuyau qui va vous apporter cette information. Parce que, comme le disait Ariane, il y aura toujours un moment, je pense que la culture d'Internet fera qu'on aura toujours à un moment, il y aura toujours des gens qui sauront contourner les méthodes et les techniques. Donc cette information circulera toujours à un moment ou à un autre. Quoi qu'on essaie de faire. Cependant, l'enjeu là, il concerne pour moi le grand public qui n'a pas forcément toujours les connaissances techniques pour savoir éventuellement ne pas laisser de traces sur Internet. Donc le principe de ce qui est très important en fait sur Internet, pour résumer, c'est que l'usage des outils est directement lié à la technique qu'il y a derrière et que en ce moment on est en train de s'attaquer beaucoup à ce principe de neutralité, et pour moi c'est très grave. Donc, et qu'on utilise en plus des prétendus, ce qu'on appelle en rhétorique des épouvantails, c'est-à-dire qu'on vous dit oh là là, la création artistique est en train de mourir à cause du piratage, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, mais on utilise ça pour faire passer le filtrage. On vous dit, oh là là, mon Dieu, il y a des enfants qui peuvent se faire agresser par des pédophiles sur Internet, donc il faut absolument tout filtrer. Il y a cette histoire de contrôle de l'information, tout simplement. Les forces de police elles-mêmes disent qu'il faut faire très attention avec cette histoire de filtrage, parce que ça ne fera que repousser les criminels dans la clandestinité et les rendre de plus en plus difficiles à tracer. Donc tout ça, c'est contre-productif. Donc, le principe de neutralité du net, c'est ce qui garantit la liberté d'information et d'expression. Et c'est quelque chose qu'on attaque par la bande en utilisant des idées comme le terrorisme, la pédophilie, etc. Où, évidemment, on ne peut être que d'accord. Donc c'est très dangereux de façon rhétorique. Ça ne veut évidemment pas dire que... évidemment que je suis contre toutes ces choses-là, c'est l'évidence. Mais il n'est pas là le problème.
Oui, surtout que techniquement, les solutions des hackers sont déjà présentes.
Les brigades antiterroristes et les brigades de police disent que c'est beaucoup plus facile de pister quelqu'un qui ne se doute de rien. Enfin, si on commence à verrouiller tout le monde, et si même le particulier qui se dit « moi, j'ai pas confiance envers mes tuyaux et je vais commencer, moi, à crypter mes communications pour envoyer mes photos de vacances à ma grand-mère », je vous laisse imaginer ce que les véritables criminels vont faire. Donc c'est stupide.
Ian McDonald, est-ce que ça aurait... Enfin, vous qui connaissez un peu les conflits, en particulier en Ulster ou des choses comme ça, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose, quoi ?
No. I suppose, I mean, if we had the internet maybe 20, 30 years ago at the height of what we call the Troubles in Ireland, I suspect that there might have been a bit of general rioting, because probably most of the guys who were rioting tend to be, you know, 13, 14, 15-year-old boys, so they would have been at home watching pornography, and that probably would have made the streets a much safer place to be. Because the internet is the great thief of time and energy. you know, if you're going to protest, you really have to have a bit of energy to do it, and it's much, much easier just watching Lady Gaga or some really sick porn, probably. And I suspect it would have been like that. The nature of the conflict, and I could talk for an hour on this, the nature of the conflict in Ireland was quite, quite different from the nature of the conflicts we're getting during the Arab Spring. It's a big but kind of a subtle difference. And if I start talking about Northern Ireland politics, the room will be empty in about 5 minutes as well. But they are quite, quite different things.
You know, I just don't think it changes much. You know, I mean, the basic thing about information is it has to have a quality receiver. And like, I mean, you know, what you're leaving out of the equation here is that, it seems like, you know, I mean, if I'm sent a video, raw video from, say, Cuba, that shows some kind of atrocity, I mean, I don't know what I'm seeing. I still don't know what I'm seeing, you know, like, I mean, I could be seeing a very clever recreation of something that did happen. I could be seeing a fantasy. you know, it's all based on, and that's why I don't think filters are all that bad an idea, you know, like, because like, but the thing is, filters get misused so much that it's become bullshit to use them too. So I don't know, you know, it's just like, it doesn't seem to me that anything's really changed the human equation of it, you know, like, you know, it's just gotten more complex.
Yeah, just picking up Lucy's point, and I think it's a good one. I was reading in the newspaper a couple of days ago about more people now in this global internet age believe in conspiracy theories than they ever have at any time, even the 18th century, which is a great time for, than any time in human history. And it's because of the way people approach information online. They've done research into this, and the way that people approach information online is it's intimate information rather than official information in some ways. It's more like gossip online, and people are more prepared to believe or give some kind of credence to gossip, to things they hear from other people, because they want to be nice to the person who's telling them that piece of information. And what happens is that critical filters that you would apply to something you read in a newspaper or a magazine or hear on the radio or television news do not get applied to internet information, and people think and are actually much more credulous of what they actually see online than they are through official channels. And one thing maybe that would change the way people react to the internet is an ability to form a way of critical thinking about the quality of information we receive online.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un adage hacker qui est peut-être connu dans cette salle, qui est « Information wants to be free », l'information veut être libre. C'est une donnée, pour moi, de ces réseaux-là. Alors, on est encore en train de construire et de comprendre comment ça fonctionne, mais je pense que on est notamment les États et un certain nombre de choses qui essaient de structurer les choses, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de on voit apparaître un certain nombre de dérives, on porte crédit à des théories de la conspiration. Il y a un adage assez méchant, alors j'espère que vous me le pardonnerez vu que j'ai défendu bien Internet parce que c'est la culture que j'aime depuis le début, mais on racontait que si on enfermait 1000 singes pendant une éternité dans une salle remplie de machines à écrire, ils finiraient par produire Hamlet. La suite dit, depuis qu'on a Internet, on sait que c'est pas vrai. Alors, c'est une façon très méchante de... c'est juste pour rigoler un peu, mais on est en train encore d'apprendre ces choses-là. Il y a un certain nombre de données de base sur la façon dont Internet fonctionne. C'est l'information veut être libre, l'information se dissémine partout. On l'a vu avec Wikileaks, c'est à partir du moment où Wikileaks a été coupé à un endroit, on a vu fleurir des centaines de miroirs partout, et pire que tout d'ailleurs, on appelle ça sur Internet l'effet Barbara Streisand, parce que Barbara Streisand un jour avait une maison avec une grande piscine, etc., et il y a eu du jour des photos qui sont passées dans un journal, elle a fait tout un foin autour de ça. Tout le monde se fichait royalement de la maison avec piscine de Barbara Streisand, sauf que le fait qu'elle a fait tout ce scandale autour, ça a attiré une attention absolument incroyable autour de ça. Et Internet fonctionne beaucoup aussi là-dessus. Wikileaks, avec toute la guerre qu'on leur a fait, je pense que ça, Wikileaks n'aurait pas eu le succès médiatique qu'on aurait connu, tout ce qui se tourne autour d'Assange, si on n'aurait pas fait la guerre à ce point-là, en fait, finalement. Si tout le monde s'en était fichu, je ne suis pas convaincu que ça aurait véritablement fait toute cette affaire. Donc, on est encore en train d'apprendre à faire fonctionner ce genre de choses, et je pense qu'une façon pour moi productive d'apprendre à entrer, à construire plutôt l'âge de la maturité concernant tous ces médias et cette énorme liberté d'information, ce serait de prendre en compte un certain nombre de principes, d'arrêter d'essayer de les couper et de lutter contre ça, c'est-à-dire l'information veut être libre, c'est-à-dire que elle finira toujours, il y aura toujours des réseaux, il y aura toujours une façon de contourner toutes les méthodes de filtrage qui seront mises en place. Je pense qu'une façon productive et constructive d'apprendre à construire l'âge de la maturité de ces réseaux-là, c'est au lieu de combattre ces principes-là qui sont constitutifs de la chose, c'est-à-dire de les reconnaître et de construire avec, alors à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait essayer de le prendre de façon mûre. Je parlais du piratage culturel tout à l'heure. Essayer de le combattre, pour moi, on engage énormément d'argent, on fait des super clips en France pour défendre les clips des Maleprince avec Adopi, enfin, ça coûte des millions d'euros, mais non, enfin, il faut faire, pour moi, une offre légale qui permettrait que les gens prennent le chemin le plus facile. Donc si je peux facilement acheter pour 5 euros le single d'Emma Le Prince, même si c'est naze, heureusement elle ne le fera jamais, c'était non, pour la blague, c'était ils avaient fait une pub sur montrant la fine fleur de la création française, c'est-à-dire Emma Le Prince, qui chante en anglais, et qu'il ne faut pas télécharger parce que sinon Emma Le Prince ne pourra jamais faire son single en 2042. Blague à part, Internet est fondé sur un certain nombre de principes contre lesquels on ne peut pas s'opposer. Donc pour moi, la façon de construire l'âge de l'esprit critique, l'âge de la maturité et des réactions vis-à-vis de ces réseaux-là, c'est de prendre ces principes-là en compte et de construire avec, au lieu d'essayer de mener des combats qui sont pour moi d'arrière-garde parce que perdus, et on perd du temps.
Merci à tout le monde. Je pense qu'il nous reste encore 5 minutes, donc on va peut-être proposer au public de poser des questions à nos intervenants. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Oui.
Merci. La question que je me pose, c'est en fait, tous les médias qu'on a eus bien avant Internet et autres, c'est des médias dont on a, auxquels on a vraiment donné la possibilité d'avoir la vérité sur les choses. Les journaux, la télé, la radio, etc. Nous, en tant que citoyens, on se dit, on me l'a dit, je l'ai écouté à la radio, je l'ai lu dans le journal, etc. Donc on a déplacé cette notion de vérité vers les médias. Donc à mon avis, je crois que l'Internet a fait tout juste accélérer justement ce problème de où se place la vérité, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Et d'où aussi le fait qu'aujourd'hui, on fait face à cet essor des théories du complot, etc., parce qu'on est confronté de plus en plus à cette vague information qui vient dans tous les sens. On ne sait plus où déposer, justement, et comment développer cette question de l'esprit critique. Donc la question que je me pose, est-ce que le débat, il ne faudrait pas le déplacer, pas sur les questions d'Internet et autres, mais sur les questions de elle est où au 21e siècle cette notion d'esprit critique et cette notion de vérité dans la société.
Moi je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, je tout complètement. Je pense que les techniques ne sont toujours que des supports. On se focalise pour moi beaucoup trop sur quel est l'impact de Facebook. On s'en fiche de Facebook. Facebook, c'est un outil, ça s'appelle un réseau social. Quel est l'impact d'un réseau social? C'est déjà une question un peu plus intéressante. On a un peu tendance avec Internet à confondre l'arbre et la forêt, c'est-à-dire que tous ces aspects techniques qui sont un peu complexes, qui sont des trucs de geek, qui sont pointus, et qui donc fait peur, parce que oulala, c'est de l'ordinateur, c'est derrière, il y a effectivement toute la question de l'usage, et c'est ça la véritable question. C'est, quand je parlais de guerre du renseignement tout à l'heure, déjà Sun Tzu, il disait, alors effectivement, l'outil pour faire du renseignement est maintenant vachement plus puissant que d'avoir des types avec des chevaux qui vont se cacher dans des forêts. Mais oui, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une question d'esprit critique, c'est une question d'usage. La question qu'on doit se poser tous, je trouve, face à l'écran, c'est notre attitude face à l'information et face à un truc qui finalement a toujours existé, mais je pense qu'on s'en rend compte maintenant, c'est la narration de l'information. En anglais, pour parler d'un article de presse, on ne parle pas d'un sujet, on dit story, on dit une histoire. Ce qui veut tout dire, c'est un fait ne fait pas une histoire. Qu'est-ce que les journalistes ont toujours fait? C'est rendre l'information accessible, mais aussi la rendre accessible, c'est aussi la narrer. Et je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui, effectivement. Alors on est une espèce de période un peu déboussolée, où on est en train un peu de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est de l'histoire, qu'est-ce qui est de la narration, qu'est-ce qui est de la pédagogie et qu'est-ce qui est de la vulgarisation. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ça.
Bonjour, we need some kind of machine.
Pardon, j'aurais juste aimé apporter une petite information par rapport à Wikipédia, c'est-à-dire que je suis une des contributrices de Wikipédia. J'ai fait 57 labels, dont l'article de Pierre Bordage que tout le monde peut lire. Et j'entends souvent dire, oui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, ce qui dans l'absolu est vrai. Mais
il y a un processus de review.
C'est un travail bénévole. Et on me demande souvent, mais pourquoi vous écrivez sans être payé et sans même avoir de reconnaissance? Parce qu'il faut fouiller dans l'historique des articles pour savoir qui les a écrits. Et j'avais apporté une petite réponse. J'aimerais savoir si vous la partagez. C'est-à-dire que les contributeurs de Wikipédia aujourd'hui sont un peu comme les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. On sait que le travail ne sera jamais fini de notre vivant. Je tiens 5 portails, dont le portail de la légende arthurienne, dont celui des mythes et légendes, dont d'autres sur la féerie, etc. C'est un travail gigantesque. J'ai 57 labels, j'y ai passé 3 ans. J'en aurai des milliers que potentiellement je pourrais faire. Et je sais que ce ne sera jamais fini de mon vivant, cette masse de travail. Mais ce n'est pas grave. Je sais qu'en le faisant, il y a de l'information que tout le monde peut lire, que tout le monde peut vérifier, et c'est ça qui me semble vraiment, vraiment important. Donc, oui, bien sûr.
Puisque vous êtes de Wikipédia, vous pourrez peut-être répondre à une question. Donc, sur Wikipédia francophone, 3 religions sont considérées comme des monothéismes. Le judaïsme, l'islam et le catholicisme, et le sikhisme est appelé monisme. Alors, je voudrais comprendre pourquoi le sikhisme, qui est une religion monothéiste, est appelé monisme et non un monothéiste sur Wikipédia. C'est... Je suis désolé. C'était juste une remarque. C'était justement quand vous disiez que le travail ne serait jamais terminé, ni de votre vivant, ni du nôtre, ni des gens qui sont ici. Voilà, ça c'est un aspect sur lequel il faut travailler.
Bonjour. J'ai envie de dire que Wikipédia, c'est un projet participatif. Donc, c'est, s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas exact, comme ceci, c'est à vous d'aller voir si vous pouvez modifier, si vous pouvez discuter sur la façon dont ça pourrait être amélioré.
Alors, pour le monisme, j'ai regardé l'historique et les discussions, et franchement, je n'ai pas envie de me battre avec les gens qui en sont arrivés là. C'est tout ce que je voulais dire.
Merci, Monsieur Wagner. Encore une dernière question, rapide, avant que nous rendions les micros.
Oui, donc d'ailleurs, en petit coda de ce qui précède, c'est vrai que moi je trouve Wikipédia que c'est un truc assez miraculeux quelque part, parce que ça pourrait partir en vide très vite, c'est imparfait, mais ça marche à cause de passionnés qui carburent à l'enthousiasme, c'est quand même à signaler. Bon, effectivement, alors, un autre problème sur la question des réseaux de Wikipédia, de Wikileaks et tout ça, on je trouve pas le terme en français, des whistleblowers, il y en a toujours eu. Ouais, c'est quoi en français?
Des informateurs.
Ouais, voilà, ouais. On va poser la question au Jean-Luc Canard enchaîné, par exemple. Enfin bref. Finalement, Wikipédia, c'est pas vraiment quelque chose de miraculeux comme ça, quoi. WikiLeaks, pardon, il y avait déjà des exemples. Wikipédia, ça m'a l'air un peu plus original, né vraiment dans du réseau. Alors après, il y a le problème de l'asymétrie. On parlait justement du fait que... Alors quelqu'un avait mentionné le fait que, bon, c'est pas seulement un nouveau média, c'est-à-dire que c'est pas seulement du top-down, quoi. Ça tente à le devenir, comme Benjamin Bayer en parle, comme le Minitel 2.0, c'est-à-dire qu'on oublie que le réseau est censé être un vrai réseau, quoi, avec multi-connexions, et ils tendent à devenir de plus en plus hiérarchiques, même si, bien sûr, on ne peut pas tellement... Il y a des domaines où c'est le plus efficace d'avoir une structure hiérarchique, mais on n'exploite pas assez ce qui ne l'est pas.
Quelqu'un...
Ok, from Wikipedia, monism... is any philosophical view which holds that there is a unity in a given field of inquiry. Accordingly, some philosophers hold that the universe is one rather than dualistic or pluralistic. Monisms may be theological syncretic, I hope you're getting this, by proposing that there is one God who has many manifestations in the diverse religious traditions. So it's a monotheism of monotheistic gods, according to Wikipedia. English language version.
Merci. Merci beaucoup pour cette information. Voilà, donc vous voyez, ça sert quand même un petit peu. Voilà. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, d'être restés avec nous pendant 7 heures, et bonne fin de festival.